Bien, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que je demanderai au pasteur Kibutu de se mettre debout. Pour nous, c'est une grande joie de l'avoir avec nous. Parce que, oui, applaudissez-le. C'est un grand, grand serviteur. C'est un grand serviteur de Dieu, et Dieu l'utilise puissamment. Et pour nous, c'est une grande joie de l'accueillir parmi nous cet après-midi. C'est un aîné dans la foi. Il m'a précédé dans la foi, vraiment. C'est un serviteur qui parcourt le monde un peu partout pour aller porter la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, il a choisi notre groupe pour venir nous apporter la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alors, nous voulons vraiment que le Seigneur bénisse son intervention. C'est un grand monsieur qui, non seulement, je ne sais pas parfois comment il faut l'appeler, s'il faut l'appeler pasteur ou s'il faut l'appeler docteur, parce qu'il a fait une brillante thèse de doctorat, et il est aussi docteur en théologie. Amen. Voilà. Et voilà. Donc, il a une grande connaissance de la parole de Dieu. Il a une grande connaissance et surtout, il a une façon extraordinaire de nous communiquer cette parole de vérité qui est l'Évangile. Amen. Alors, je voudrais vous dire, il a écrit aussi des ouvrages. Et ces ouvrages sont en vente dans le narthex. Vous pouvez les acquérir après la messe, après l'assemblée. Amen. À toi la parole.
Je vous salue au nom du Seigneur. C'est presque une belle habitude qu'une fois par an, je vous rends visite pour venir communier avec vous, partager les grâces de Dieu ensemble, faire l'expérience de sa puissance, vivre la démonstration que Jésus est mort, c'est vrai, mais il est ressuscité. Il est vivant, il nous voit, il nous regarde comme nous pouvons nous regarder les uns les autres. Il s'intéresse à tout ce qui se passe ici. Toutes les fois que vous êtes, que nous sommes rassemblés en son nom, il est au milieu de nous. Au fait, Jésus aime le fruit de son travail. Il a payé de son propre sang et grâce à ça, nous sommes là. Que son nom soit béni. Alors, comme vous allez vous asseoir pendant 4 heures de mon enseignement, je vous propose de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Ça va vous permettre de vous détendre encore un peu, mais surtout de suivre attentivement la lecture de la parole de Dieu. Alors, si vous avez la Bible, vous allez ouvrir dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 11. À partir du premier verset, c'est une assez longue histoire, mais belle histoire. Nous allons la lire. Jean, chapitre 11, à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes encore en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici. » Et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent disant, elle va au sépulcre, elle va au tombeau pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus le voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, Jésus frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au tombeau. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et à dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns des Juifs d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et ils dirent, « Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les faisons, si nous les laissons faire, tous croiront en lui. » Et les Romains viendront, détruiront et notre ville et notre nation. Clés pour saisir ton miracle. Les clés bibliques pour saisir ton miracle. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour la grâce que tu nous fais ce jour d'être là en ta présence pour nous exposer à ta parole, pour nous exposer à l'œuvre du Saint-Esprit, pour nous exposer à la puissance de ta main. Tu nous as emmenés et nous avons nos fardeaux, nous avons nos réalités. Nous pouvons avoir aussi nos souffrances. Et en face, il y a toi et ta parole. Fais-nous du bien. Touche chacun de nous. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, rien ne se fera ici si tu te mets à l'écart. C'est pourquoi nous t'avons chanté, nous t'avons loué, nous t'avons invoqué. Parce que c'est ta réunion. Nous sommes ton peuple. Nous sommes les moutons de ton troupeau. Viens nous parler. Viens nous toucher. Viens nous équiper pour les victoires dont nous avons besoin. Nous promettons que tout sera pour la gloire de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La prédication est mon travail depuis un peu plus de 30 ans. Je prêche souvent et j'ai souvent prêché. Dieu sait combien de milliers de prédications. Certaines prédications, je les considérais comme riches en vérité biblique. D'autres riches en exhortation. D'autres encore riches en sciences bibliques. Mais pendant très longtemps, il y a une chose qui n'avait pas beaucoup attiré mon attention et qui ces dernières années, ces derniers mois, me préoccupe beaucoup. Je vais parler des principes bibliques. Les vérités bibliques édifient. Les exhortations encouragent chacun selon sa situation. Mais le principe, c'est un équipement spirituel que Dieu donne à tout le monde. Tous ceux qui appliquent le principe, ça marche. C'est comme lorsque on met le principe de l'interrupteur dans une maison pour qu'il y ait la lumière. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas seulement le père quand il touche pour qu'il y ait la lumière. Même l'enfant, dès qu'il touche à l'interrupteur, il y a la lumière. Pourquoi ? Parce que c'est un principe. Un principe marche pour tout le monde. L'essentiel est qu'on sache manier le principe. Dans la Bible, il y a des principes qui sont là. Et il faut les découvrir. Il me semble que l'histoire que nous venons de lire fait partie des histoires de la Bible qui sont considérées comme des références si nous voulons comprendre comment Dieu agit. Dieu agit et il agit encore aujourd'hui. Hélas, mais il n'agit pas pour tout le monde. Parce qu'il y a certains qui ont compris les principes et qui appliquent les conditions des principes. Il y en a d'autres qui n'ont les yeux rivés que sur leurs besoins et l'urgence de leurs besoins. Et là, c'est une tentation de chacun de nous. Quand vous passez par des problèmes, toute votre attention est focalisée sur votre problème. Tous ces derniers temps, vous ne dormez pas bien et vous voulez que ça change. Vous voulez dormir, mais vous oubliez que Dieu, pour qu'il intervienne, il y a un principe. Et ce principe-là, il faut savoir comment ça fonctionne. Je viens aujourd'hui, dans ce texte biblique, ensemble avec vous, dans une réflexion simple, parce que vous êtes le plus francophone au monde. La langue française est à vous, la France. C'est dans ce langage-là qui est différent de celui que Jésus a utilisé à ses disciples. Puisque eux ont parlé en araméen, en grec. Et nous allons utiliser notre langue, traduire, convertir ces principes, afin qu'ils soient compris. Et quand ils sont compris, je vous exhorte au nom du Seigneur, mettez-les en pratique régulièrement toute votre vie durant, pour que vous receviez ce que Dieu promet dans sa parole. Nous ne nous imaginons pas jusqu'à quel point Dieu est pressé de voir sa gloire s'accomplir sur la terre. Dieu ne se cache pas. Il n'a rien à cacher. Dieu nous aime. C'est pourquoi il veut agir. Dieu est unique. C'est pourquoi il ne se met pas en compétition. Il n'y aura pas de vote quelque part pour voir qui passe pour qu'il devienne Dieu. Il y a quatre remarques qui sont très frappantes dans cette histoire. La première remarque, c'est que ces deux sœurs du nom de Marie, Marthe, et leur seul frère, Lazare, vivaient dans une amitié avec le Seigneur Jésus. Ils n'ont pas fait partie des disciples qui se déplaçaient tout le temps avec Jésus-Christ. Eux l'accueillaient, lui et ses disciples, chez eux à la maison, à Béthanie. Plus d'une fois, si vous lisez dans Luc, chapitre 10, quelques versets plus loin, vous allez découvrir qu'une fois Jésus était accueilli chez eux, qu'ils étaient à table, que Marthe les avait servis de nourriture, et que Marie, sa petite sœur, était assise au pied de Jésus, et que Marthe était mécontente du fait que sa petite sœur, au lieu de l'aider à la cuisine, s'est contentée de s'asseoir auprès du jeune homme, au point qu'elle ne pouvait plus se taire. Elle est venue dire à Jésus, est-ce que ça ne te dérange pas que ma sœur reste là assise à tes côtés, au lieu de venir faire la tâche qu'il faut pour les femmes à la cuisine? Et c'est à cette occasion que le Seigneur Jésus a dit à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Jésus venait, d'après la parole de Dieu, c'est la seule maison où Jésus est venu plusieurs fois manger. Ils étaient en relation ensemble. Pouvons-nous être des réguliers de Jésus, dans une relation régulière avec lui? Quelqu'un me dirait, mais comment? Il n'est plus là physiquement. Bien sûr, il n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement. Comment? Dans sa parole, dans la prière, dans les rassemblements, dans le cœur qui manifeste la foi et qui lui parle au quotidien, qui recourt à lui régulièrement, qui lui fait un petit coucou à chaque respiration. La Bible ne dit-elle pas, priez sans cesse. C'est comme ça que nous renouons avec le Seigneur pendant notre génération. Il y a une deuxième remarque que nous trouvons dans ce texte. Cette remarque, c'est quand Lazare est gravement malade et que le cas est désespéré, Marthe, qui semble être le chef de famille, la chef de famille, ne peut plus attendre. Elle dit à Marie, nous devons envoyer quelqu'un. Nous devons envoyer quelqu'un chercher le Seigneur parce que le cas est désespéré, notre frère risque de mourir. Et donc, ce quelqu'un est envoyé chez Jésus. Le texte nous dit qu'il a marché pendant tout un jour pour arriver là où se trouvait le Seigneur. Et vraisemblablement, à peine il a commencé à partir, à peine à mi-chemin, que Lazare a rendu l'âme. Il est mort. Lui ne savait pas, il a continué à marcher pour aller chercher le Seigneur. Et il est arrivé un jour plus tard. Et quand il est arrivé là-bas, il a raconté l'histoire. Et au moment où il finit de parler à Jésus, le Seigneur fait un rapport à ses disciples. Il leur dit, Notre ami Lazare est malade. Nous irons vers lui. Et les disciples réagissent en disant, mais Seigneur, Béthanie se trouve à 15 stades de Jérusalem, qui veut tout simplement dire 3 kilomètres et demi. C'est une banlieue de Jérusalem. 3 kilomètres et demi. Et récemment, on allait être lapidé. Quand on va arriver à Béthanie, certainement les bruits vont arriver à Jérusalem et tes ennemis vont descendre et vont te caillasser. C'est dangereux. Et le Seigneur va faire une déclaration étonnante. Il dit, il y a combien d'heures dans la journée ensoleillée? 12. De 18, de 6 heures à 18 heures. Il y en a 8, 12. Et quand vous marchez dans la lumière, vous verrez les obstacles et vous n'allez pas ricocher sur une pierre pour tomber. Parce que vous marchez dans la lumière du jour. Mais si c'est la nuit que vous marchez, vous n'allez pas voir, alors vous allez broncher. Pourquoi? Parce que la lumière, là, il glisse sur le terrain spirituel. Parce que la lumière n'est pas en vous. Ça, ça devient curieux. En vous. La lumière doit être en vous pour qu'elle vous aide. Vous comprenez ce qu'il veut dire? Que la sécurité dans notre vie, bien-aimée, ce n'est pas d'être le plus loin possible des endroits dangereux, mais c'est de marcher dans la lumière, c'est-à-dire marcher avec le Seigneur. Quand nous marchons avec le Seigneur, où que nous soyons, nous sommes en sécurité. La troisième remarque qui intervient dans notre texte, que j'ai noté, c'est un peu la réaction de l'un des disciples. Il s'appelle Thomas Didyme. Didyme, du grec, veut tout simplement dire Thomas le Jumeau. Thomas le Jumeau. Alors Thomas le Jumeau réagit. Il dit, disciple, écoutez, maintenant que le maître a décidé qu'on parte en Judée, allons avec lui, et s'il faut mourir, nous allons mourir avec lui. On s'accroche à lui. Bien-aimés, c'est à ce moment-là que nous découvrons le degré d'attachement de ces hommes qu'on appelle les disciples à Jésus-Christ. Ils étaient prêts à mourir avec lui. Aujourd'hui, la religion, la relation, dis-je, avec Jésus n'est qu'un outil d'intervention rapide pour nos besoins. Une sorte de trousse de secours. J'ai mal au genou, je viens au Sauveur. Je manque du travail, je viens au Sauveur. Je m'entends pas avec mon enfant, je viens au Sauveur. Trousse de secours. Mais pas pour les disciples, le vrai. Ceux qui ont vécu en live avec Jésus. Pour eux, c'est vivre ou mourir avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire une parole que Jésus a adressée à ses disciples-là, que nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, pas mes convertis, pas mes croyants, mais mes disciples. C'est-à-dire que le degré d'engagement que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous soyons au même niveau que les disciples qui ont vécu avec lui. Vous le comprenez bien. C'est ça, le degré. Ma question est,
ça veut dire, suis-moi,
où disciple, vous en êtes suis-moi par rapport à un engagement régulier, constant, total, avec votre Sauveur? Votre Sauveur, notre Sauveur qui a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas que lui à être avec nous. Il y a aussi nous qui devons être avec lui. Est-ce que nous le voulons? Si nous disons oui, il nous attend au tournant de l'action. À qui d'autre irons-nous? Il a les paroles de la vie éternelle. Les demi-mesures n'existent pas. La position neutre n'existe pas. L'abstention n'existe pas. Ou on se donne, ou on s'éloigne. Plus on s'éloigne de Jésus, plus on est proche de quelqu'un d'autre que vous connaissez bien, que je ne vais pas citer. Pourquoi encore attendre des jours? Puisque le texte dit que quand il a reçu la nouvelle, Jésus est encore resté des jours à l'endroit où il se trouvait. Alors, voyons l'urgence de l'affaire. Monsieur fait la route, un jour, il arrive là où se trouve Jésus, il l'informe. Jésus reste encore deux jours. Maintenant qu'il a fait encore deux jours, il va se mettre en route pour aller là où se trouve Lazare pendant un jour. Ça fait au total quatre jours. D'où la phrase de Marthe, c'est depuis quatre jours qu'il est dans la tombe. Pourquoi attendre quatre jours? C'est dans la tradition que nous trouverons la réponse. À cette époque, comme d'ailleurs dans certains milieux conservateurs d'aujourd'hui, on croit que lorsque quelqu'un meurt, la possibilité qu'il ressuscite, c'est qu'il ressuscite dans les trois jours. Parce qu'il semblerait que lorsque quelqu'un meurt, son âme fera un tour et souvent viendra, partira, reviendra pendant les trois jours. Et au bout de trois jours, l'âme s'en va. Aujourd'hui, il n'y a que quelques-uns qui y croient. Mais à cette époque, tous y croyaient. Et donc, s'il ressuscite dans les trois jours, il pourrait bien dire, ah, c'était plus ou moins normal. Quatre jours, la putréfaction a commencé, la décomposition a commencé. D'où la parole de Marthe, il sent déjà. Maintenant dites-moi, comment on pourra ramener à la vivification un corps décomposé? Tout est possible à notre Dieu.
Amen.
Ça fait partie des preuves bibliques, bien-aimés, que nous sommes tombés sur le bon, car il a le pouvoir de nous ressusciter, surtout quand il le promet. L'a-t-il promis? Oui. Après la mort, il nous ressuscitera au dernier jour, et nous serons avec lui dans la gloire. Vos frères, vos sœurs, vos enfants, tous ceux qui sont morts, nous les reverrons. Dans la mesure où ils sont morts dans le Seigneur. D'où notre responsabilité de nous mettre au chaud de l'Évangile, jour après jour et tous les temps, afin de persévérer ensemble. Tel était le mot d'ordre dans l'Église primitive. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il persévérait. La continuation. C'est dommage qu'aujourd'hui on trouve encore des hommes et des femmes qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, qu'ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui ne persévèrent pas. Alors ils n'ont pas compris qu'il y a quelqu'un qui fait le marathon derrière eux. Tôt ou tard, il va les rattraper avec l'objectif de les ramener d'où ils sont sortis. Et le diable est capable de faire ça. Quelles sont les preuves? Mais il l'a fait pour plusieurs. Ils étaient avec nous, mais ils ne sont plus avec nous. Ils sont partis et retournés avec lui. Et quand vous retournez avec lui après avoir été avec le Seigneur, il a assez de griffes pour te retenir et t'empêcher de décoller à nouveau. Il y a une question. Comment, maintenant, nous pouvons saisir notre miracle? C'est à ce moment-là que nous entrons dans le propre de l'enseignement. Puisque j'ai épinglé dans ce passage cinq éléments qui constituent les principes permanents et applicables à tout le monde, pour saisir le miracle au nom du Seigneur. Nous prierons pour certains miracles et nous aurons des résultats aujourd'hui. Vous prierez pour certains autres miracles et vous aurez des résultats chez vous parce que vous mettrez en pratique les principes de Dieu. Quel est le premier principe que nous retenons de ces paroles ou de cette histoire? La première chose, c'est que lorsque ça ne va pas, envoie le message à Jésus. Amen. Lazare est malade, Lazare va mourir, monsieur, va trouver Jésus pour nous. Aujourd'hui, pour mettre ça en pratique, c'est la prière. Mais une prière profonde, une prière qui prend du temps. Cet homme a fait un jour pour marcher jusque là où se trouvait Jésus. L'importance d'un sujet peut faire que vous puissiez prendre le temps qu'il faut. Vous asseoir par terre, vous asseoir là, depuis le matin jusqu'au soir, en train de parler à Jésus, en train de palabrer avec Jésus, en train de lui dire, Seigneur, tu as promis, Seigneur, tu l'as fait pour Marthe et Marie, Seigneur, tu peux encore agir aujourd'hui, Seigneur, il est écrit que tu ne changes pas, Seigneur, n'est-ce pas tu même, Seigneur, n'est-ce pas tu es mort sur la croix pour moi, Seigneur, n'es-tu pas venu sur la terre pour faire quoi, n'est-ce pas pour prendre soin de nous, Seigneur, 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 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 2 jours s'il le faut. L'importance du sujet nous engage dans une prière sacrificielle. C'est la première chose à faire. Beaucoup trop de monde dans le monde de la foi utilisent tout leur temps à s'apitoyer sur leur sort, à se concentrer sur leur douleur, éprouver et peser, sous-peser leur douleur et puis en parler aux amis. Regarde comme je suis misérable. Coup de fil, 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 facture, facture. Et puis, on est fatigué à la fin d'avoir raconté sa misère parce que plus on en parle, plus on est malade encore, plus on en souffre encore, plus on en souffre encore. Parce que la souffrance est un couteau à double tranchant. Tu l'envoies là-bas et ça retourne sur toi. Et dans tout ça, le seul capable de changer ta situation, tu ne penses pas à lui. Ah si, tu penses à lui pour dire qu'il ne fait plus rien ces derniers temps. Dieu veut que nous ne gardions pas nos fardeaux. Jésus l'a dit maintes fois. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Si vous pratiquez ça, vous ne mourrez pas de crise cardiaque, et vous n'aurez pas de stroke dans la tête. Pourquoi? Parce que Jésus ne veut pas que vous puissiez porter des fardeaux qui vous dépassent. Il y a un texte biblique assez bien connu. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ce texte, dans le grec, le mot spéirado qui est utilisé à la place de tentation a 2 significations similaires. Ça veut aussi dire épreuve ou souffrance. Alors si vous le reprenez maintenant avec ce qu'on appelle un langage technique variante, vous aurez ceci. Aucune épreuve, aucune souffrance ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous souffriez au-delà de vos forces. Mais avec la souffrance, il va préparer les moyens de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu est le spécialiste de nos souffrances. Il est plus important que l'hôpital. Je ne dis pas n'allez pas à l'hôpital. Allez-y, on vous aidera. Après tout, tous les médicaments qu'on emploie là-bas viennent des plantes. Et les plantes qui les a créées. Eh bien, tout chemin mène à Dieu. Pas à Rome, nécessairement, mais à Dieu. Amen. Envoyez, envoyez, envoyez. Soufflez-vous, envoyez. Ne gardez pas. Si vous gardez, ça vous écrase. Envoyez, envoyez. Qui l'a dit? Dieu. Ne gardez pas la souffrance. Je vais vous donner une sorte d'indice. Quand vous sentez qu'une épreuve ou une souffrance continue de vous ronger, malgré votre prière, cela veut dire que vous devez encore prier. Jusqu'à ce que ça s'évacue. Jusqu'à ce que ça se transmette. C'est le premier principe. Le deuxième, croire du fond de tout votre cœur que Dieu peut tout aujourd'hui. Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus à Marthe. Crois-tu ça? Marthe a répondu. Cette question s'applique à nous tous pour nos situations. Jésus te dit cet après-midi, je suis la résurrection et la vie. Crois-tu cela?
Amen.
Il n'existe pas de situation désespérée chez Jésus. Il l'a dit. Il n'y a pas de situation désespérée. Je connais les questions qui visitent le cœur des hommes, surtout en un temps comme celui-ci où je partage la parole de Dieu. J'entends les questions, j'entends les questionnements, j'entends les pensées, je les vois, je les sens à cause de l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous. Mais je vais vous dire une chose, notre expérience, c'est zéro par rapport à la parole de Dieu. Notre expérience, qu'elle soit victorieuse, notre expérience, qu'elle soit comme un échec, tout cela ne vaut pas un clou par rapport à ce que Dieu promet. Pourquoi? Parce que notre expérience est passagère. Notre situation est passagère. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Elle est depuis le commencement, par elle, Dieu a créé le monde dans lequel nous vivons. Mais notre expérience, quand vous aviez 10 ans, vous vous souvenez quelle expérience vous avez connue? Moi, je me souviens d'une expérience que j'ai connue quand j'avais 9 ans. Nous venions de la forêt avec ma mère. Pendant que nous étions à la forêt, une grande pluie est tombée. Les pluies tropicales, ça tombe en torrent. C'est un peu comme ici en France, dans certaines régions. De mètres cubes et de mètres cubes en quelques heures seulement. Et quand nous revenions sur le chemin de retour, il fallait traverser une rivière qui était inondée. Et quand il y a inondation, ça creuse les lits de la rivière. Ça devient plus profond, sans qu'on s'en rende compte. On avait l'impression qu'on pouvait traverser. Et ma mère m'a tenu, et elle s'est engagée. Moi aussi, je me suis engagé pour traverser la rivière. Sauf que devant nous, il y avait un trou. Nous sommes descendus tous les deux là-dedans. Elle m'a relâché. Et moi, j'ai plongé dans l'eau, je ne savais pas nager. Et j'ai coulé. J'étais à l'intérieur de l'eau, conscient que je coulais et je partais. Et puis tout à coup, une sorte de liane de la forêt s'est enchevêtrée dans mes bras et j'ai saisi. Au fait, c'est une liane qui venait de l'autre côté et qui m'a tiré jusque-là. J'ai traversé avant ma mère. Ah, l'adrénaline était là. Maman a pleuré de toutes ses larmes. Mon fils. Et puis elle voit son fils se mettre debout. Merci Seigneur. C'était une chaude expérience. Mais elle est passée. Parce que les expériences, bonnes ou mauvaises, passent. Mais la parole de Dieu ne passe pas. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu est la référence de notre foi. Que dit la Bible? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Voilà pourquoi beaucoup de croyants dans le monde se sont achetés des Bibles. se sont arrachés des Bibles, qui lisent au quotidien, qui les lisent au quotidien, comprises ou pas, ils les lisent. Ils tiennent à ce que leur tête soit saturée, non pas des pensées du nouveau chant de Céline Dion, mais des discours de Jésus-Christ. Crois dans ton cœur que tout est possible. Dieu va agir. Et quand tu crois en Dieu, ne promène plus les regards inquiets pour observer si ça marche. Tu n'es pas dans un gris-gris, ni dans un truc. Tu es dans un divin. Dans le divin, le regard ne compte pas. Ce qui change ou ne change pas ne compte pas. Ce qui compte, c'est que Dieu est vivant. Et puisqu'il est vivant, tout est possible. Troisième principe. Marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance. Vous savez, beaucoup de croyants aiment Dieu de tout leur cœur. Et c'est vrai. Ils fréquentent les assemblées avec foi. Et c'est vrai. Mais au moment où ils doivent faire le choix de tous les jours entre faire ce que Dieu veut ou faire ce qu'ils veulent eux-mêmes, Dieu ne compte plus. Ils font ce qu'ils veulent. Nous vivons une époque assez triste sur le plan moral. Beaucoup de nos sœurs ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Et chaque enfant a son père. Ça veut dire ce que ça dit. Une vie de désobéissance ne paye pas. Vous savez, vous ne deviendrez pas saint maintenant. Vous serez semblable à Jésus l'instant où la trompette sonnera, quand vous verrez l'éclair et le maître, le roi, se révéler du ciel. Vous serez semblable à lui en un instant. Mais en attendant ce jour-là, au moins, il faut se battre. Il y a dans le cœur des gens, il n'y a même pas un combat. Nombre de tentations, nombre de péchés. Nombre de tentations, nombre de péchés. 100% d'échecs, c'est pas normal. Il y a un manque de volonté. Quand vous voyez un élève qui fait 0 en maths, 0 en français, 0 en tout, c'est qu'il n'a vraiment rien fait. Il y a des gens qui font tout pour tomber dans le péché. Jésus a dit, si vous marchez dans la lumière, vous ne trébucherez point. Et Dieu fait toujours des cadeaux particuliers à ses enfants qui lui obéissent. Je vais vous dire un secret qui marche dans tous les cas au sujet du mal. Quand vous êtes en face du mal, ne vous taisez pas, ne vous laissez pas faire, soyez bavard. Dites à Jésus que vous ne voulez pas tomber et parlez au diable de s'éloigner de vous. Et puis si vous le pouvez, sortez de là. Si c'est un train qui roule, attendez la gare. Et puis à la gare, descendez. Je connais une jeune femme, j'ignore ce qu'elle est devenue. Lorsqu'elle s'est convertie à Jésus-Christ, elle a écrit une lettre au jeune garçon avec qui elle sortait. Et cette lettre-là était très courte. Je t'ai bien aimé. Mais notre relation contenait des choses qui nous menaient droit en enfer. Je ne vais pas arriver là-bas. Je descends du train. Inutile d'insister. Vous comprenez pourquoi j'ai retenu le contenu de la lettre. Parce que ce garçon-là, c'est moi. Cette lettre m'a fouetté au propre et au figuré dans mon orgueil de garçon. Je connais les garçons parce que j'en suis un. Ils aiment bien laisser tomber, ne pas être laissé tomber. Mais il y a une chose que j'ai retenue dans la suite des temps quand je me suis donné au Seigneur, c'est que cette fille savait vraiment ce que veut dire s'écarter du mal. Amen. Vous savez, quand Satan veut te garder dans un péché, il y met une cerise. Pour que tu aies toujours l'impression que si je m'écarte, je n'aurai plus la cerise. Mais la vie n'est pas faite de cerises. Il y a une éternité qui nous attend. Et en plus de l'éternité, il y a une transition qui s'appelle la mort. Tous ceux qui meurent ne savent pas qu'ils vont mourir. Chaque année, il y a des milliers de gens qui meurent des accidents de circulation. Et plusieurs parmi eux sont aussi consciencieux que vous et moi pour se garder droit devant les volants. Mais ils ne peuvent pas tout prévoir. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde à chaise éjectable. On pourrait toujours sauter sans avis. L'âge ne veut rien dire. Ah, je suis encore là. Ça ne dépend pas de celui qui veut ou de celui qui fait. Compte tenu de cela, le prophète, vieux et mort depuis longtemps, qui a dit, ô homme, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu au quotidien. Ce n'est pas parce que tu obéis que tu iras au ciel, mais quand tu obéis, la foi devient possible. La persévérance devient possible. L'engagement devient possible. Et les miracles deviennent nombreux. Bien-aimé, je vais vous dire ceci. Jamais Dieu ne demande à un homme une chose impossible. Tombe dans le péché, ne donne pas une heure à ton péché. Relève-toi et continue la marche. Et dis à Dieu, je ne retournerai plus là-bas. Si tu dis c'est difficile, tu as raison. C'est difficile. Mais qui t'a dit qu'il y a des choses faciles sur la terre? Aller aux études, c'est facile ou difficile? C'est difficile. Aller au travail, se réveiller chaque matin, mettre au boulot dodo, vous connaissez la chanson. Est-ce que c'est facile ou c'est difficile? C'est toujours difficile. Tout est difficile sur la terre. Mais possible. Ce qui compte, c'est que ça soit possible. C'est vous qui avez dit dans votre langue qu'on ne peut pas à la fois vouloir et le beurre. Et le beurre et l'argent du beurre. Non. C'est l'un ou l'autre. Amen. Si tu veux le miracle, écarte-toi de ton péché. Amen. Alors le Saint-Esprit s'empresse pour faire de toi son chouchou. Il te parle, il te donne des visions. Quand tu dormes, les autres rêvent des accidents, toi tu rêves le ciel. Au fait, tu seras heureux, comblé, aimé, paisible, joyeux, content. Quand tu lis la Bible, ça te parle, ça te parle, ça te parle. La Bible est riche. Ton intelligence est fécondée, bénie, ouverte, inspirée, enrichie, qualifiée. La culpabilité ne sert à rien du tout. Quand tu vois que tu tombes dans le péché ou qu'un autre tombe dans le péché, relève-le et avance. Ne dites pas, ah, qu'est-ce que je fais? Ah, mais c'est grave. Ah, mais je n'ai pas pris de précautions. Ah, mais ça, c'est la chanson du diable. Parce qu'il veut te garder dans la déception et dans le découragement. Non, quand tu te relèves, tu avances. Tu avances. Il y a un Canadien qui a dit une chose, un jour une chose. Tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Rester couché, c'est diabolique. Le quatrième principe, c'est la parole d'autorité. Lazare, sort! Ça, c'est l'autorité. Amen. Ça, c'est l'autorité. C'est comme ça qu'on chasse les démons. Les démons, il ne faut jamais leur parler amicalement. Cher démon, tu as assez fait souffrir. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Arrête, arrête. Va-t'en quand même. Va un peu faire un tour au parc, s'il te plaît. Comme ça, je peux dormir. On ne parle jamais aux démons de cette manière-là. Sors! Au nom de Jésus! Amen. La parole d'autorité. C'est la prière d'autorité. Mais notez ceci. La prière d'autorité ne se trouve pas dans les cordes vocaux ou dans le timbre de la voix. Ça se trouve dans des prières préparatoires. Amen. Quand tu prépares, tu pries, ça, la batterie spirituelle se recharge. Maintenant, sur les situations, tu peux lâcher des paroles d'autorité et ça marche. Autrement, n'importe qui pourrait dire sors. Quand tu vois quelque chose, sors. Quand tu vois, guéris-toi. Quand tu vois, arrange. Quand tu vois, ouvre la porte. Quand tu vois, non. L'argent, viens. Non. Ça ne marcherait pas comme ça. La parole d'autorité se prépare par des prières préparatoires. Dans lequel le cœur de l'homme se mêle au cœur de Dieu et devenir une seule. Un seul esprit, comme dit la Bible, que nous devons être un seul esprit avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. Demandez et vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Celui qui cherche, trouve. Matthieu, chapitre 17, verset 17. Je termine par un cinquième principe et nous allons prier. Le cinquième principe, c'est vivre dans l'action de grâce. Vivre dans l'action de grâce. Il y a une partie du texte de cette histoire que nous n'avons pas lue, puisque ça ne se trouve pas dans Jean chapitre 11, mais ça se trouve dans Jean chapitre 12. Et je vous propose d'avancer vers cette lecture. Nous allons juste lire 3 ou 4 ou 5 versets dans Jean chapitre 12, le verset 1. Six jours avant la Pâque, Jésus arrive encore à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui Jésus. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit le pied de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie d'odeur du parfum. Verset 4. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, il en connaissait même le prix, 300 deniers pour les donner aux pauvres. Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Dans ces morceaux qui s'ajoutent pour compléter le décor de notre histoire, de ces enfants orphelins que Jésus, dont Jésus s'est occupé, il y a cet épisode qui nous apprend comment on réagit lorsque Jésus agit dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu ont vécu des miracles, mais très peu de miracles. Et la raison, c'est parce que quand Jésus agit dans leur vie, leur histoire s'oublie rapidement, parce qu'ils sont maintenant en attente d'autres miracles. Et ils ne savent pas comment on crée une atmosphère de miracles continuels. Et pour créer une atmosphère de miracles perpétuels, qu'est-ce qu'on fait? On fait des actions de grâce. C'est-à-dire, on fête le miracle de Jésus-Christ dans votre vie. Quand vous fêtez cela, vous multipliez l'onction. Chaque fois qu'on se réjouit devant Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, l'onction se multiplie et cela prépare les prochains miracles. C'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi chaque fois, lorsque Israël avait vécu un miracle de Dieu, il louait l'Éternel. Il chantait des louanges. Et de la sorte, la gloire de l'Éternel éclatait. Et la bénédiction de Dieu se multipliait dans leur vie. C'est ce que nous voyons sous nos yeux avec ce qui est arrivé à Béthanie. Jésus a ressuscité Lazare, il s'en est allé, il a continué ses ministères, il a continué à prêcher, ainsi de suite. Et puis, peu de temps avant d'aller à la croix, puisque c'est ce dont il est question ici, avant d'aller à la croix, il a décidé de venir dire ses adieux à cette chère famille qui était ses amis. Et quand il vient à cette occasion, et qu'il arrive dans cette maison, deux actes sont posés. Le premier acte, on sert un souper, un banquet, une nourriture. Marthe aimait beaucoup préparer la nourriture. Vous savez, dans vos familles, vous connaissez certainement certains et certaines qui aiment bien préparer. Et souvent, en savent bien là. Dieu est bon, hein? Dieu est bon parce qu'il sait que l'homme aime la nourriture. Et il suscite toujours dans chaque famille quelqu'un qui s'y connaît assez bien. C'est rare que tout le monde soit... soit incapable de préparer une bonne soupe. Il y a toujours quelqu'un dans la famille qui fait bien les pâtes, qui fait bien la viande hachée, qui fait bien la salade, qui fait bien... Elle prépare la nourriture. Elle a offert un souper pour réjouir le cœur. Vous savez, la nourriture joue un grand rôle. Dans l'histoire de la Bible, on apprend des pères qui ont béni leurs enfants après avoir bien mangé. Ce fut le cas, par exemple, de papa de Jacob et d'Ésaü. Il a dit, allez faire la chasse. Et puis, on amène le gibier, on prépare très très bien. Lorsqu'il mange, quand il se réjouit, l'onction est libérée pour bénir. La deuxième chose qui était faite à cette rencontre vient d'une personne particulière. Particulière à Jésus. À cause de ses choix. Je pense personnellement que Marie était la clé de l'amitié de Jésus pour cette famille. Pourquoi? À cause de son attitude. Quand Jésus arrivait Marie allait s'asseoir à ses pieds pour entendre sa parole du début à la fin. Se nourrir de la parole de Dieu, c'est la clé pour grandir dans la foi. Je loue Dieu pour l'époque où nous sommes, où les enseignements peuvent être enregistrés, afin que les gens soient en mesure de les écouter, et de les écouter encore. Au moment où Jésus vient pour ressusciter Lazare, Lazare était déjà mort, la Bible dit que Marie a couru et s'est jetée à ses pieds. Se jeter dans les pieds, ce n'est pas séduire quelqu'un, c'est s'humilier devant quelqu'un. Ce sont les esclaves qui se jetaient aux pieds de leur maître. Ce sont les vaincus qui se jetaient aux pieds de leur vainqueur. Amen.
Amen.
Et maintenant, cette fois-ci, la dernière qu'elle voit Jésus, elle pose un acte que vous ne comprendrez pas si vous vous contentez de lire Jean chapitre 12 et vous ne m'écoutez pas. Pourquoi? Parce que ce qui est dit, c'est comme codé, langage codé. Il faut avoir certains outils pour découvrir de quoi on parle. Le fameux parfum de nard pur, le bocal de parfum de nard pur de cette époque-là, voudrait dire le salaire d'une année. Voyez votre salaire, multiplié par 12. Ce qu'il faut pour acheter ce bocal de parfum. Mais pourquoi une jeune fille avait un tel bocal de parfum? C'est parce qu'à cette époque-là, ce sont les femmes qui donnaient la dot. Vous ne connaissez pas tellement la dot, mais chez nous en Afrique, on en sait quelque chose. Si tu veux épouser une femme, il faut payer la dot. Dans certains pays d'Afrique, c'est la vache qu'on doit donner. Dans d'autres, c'est une liste de choses compliquées. Mais quand vous faites la somme, c'est une somme que vous n'avez jamais eue les 6 derniers mois, même l'année dernière, sans savoir où tu vas trouver. C'est pourquoi le plus souvent, c'est toute la famille qui cotise pour essayer de s'en sortir. Parfois même on prend crédit. Mariage à crédit. Et donc, Marie a gardé ce bocal de parfum, espérant qu'un jour elle va se marier. Mais Jésus qui a ressuscité son frère vient d'arriver, tout le projet s'arrête. Et elle prend le seul trésor qu'elle avait et elle verse aux pieds de Jésus, où elle était habituée à aller s'asseoir. Elle y verse le parfum. Parce qu'elle le fait dans l'obéissance totale. Elle participe sans le savoir à la grande histoire de la mort de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus, quand il reprend Judas Iscariote, le tricheur, il va lui dire, laisse-la faire en peine, car ce qu'elle fait, elle prépare mon corps pour ce qui va arriver.
Amen.
Ne la dérange pas. C'était sacrificiel. C'était se priver de la préparation nécessaire de son mariage. Soit dit en passant, ce sont des orphelins, cela ne fait aucun doute. C'est pourquoi on ne parle pas de leur père, on ne parle pas de leur mère. Il n'y aura pas d'autre source pour préparer son mariage dans l'avenir. Le temps s'arrête parce que le Sauveur est là. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a 4 sacrifices que nous devons régulièrement donner à Jésus-Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas. Vous savez, dans la pratique de la foi, il y a pratique de la foi et pratique du sacrifice. La pratique de la foi, c'est la persévérance. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, persévérer dans la communion fraternelle, persévérer dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce que nous faisons dans les assemblées. Mais il y a la pratique du sacrifice. Mais quels sont les quatre sacrifices? Le premier sacrifice, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je te donne tout, nous avons chanté. Si vous y croyez, c'est ça le sacrifice de notre corps. Offrir ton corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, tu livres ta volonté à Dieu. C'est un merveilleux sacrifice. Livrer ta volonté à Dieu. Tous ceux qui sont mariés ou qui seront mariés savent que celui qui garde sa volonté ne peut pas vivre un mariage heureux. Impossible. Tu dois livrer ta volonté. Et ça doit être en permanence, tout au long de la vie, jusqu'à ce que Dieu nivelle vos vies et vous serez heureux. Mais si chacun tient à sa volonté, vous ne vivrez pas le bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'égoïsme, le bonheur est dans le sacrifice. C'est là, si aujourd'hui je dois écrire un livre sur le mariage comme j'en ai écrit un, je me concentrerai sur ce principe, car c'est la clé pour vivre un mariage heureux. Tous les divorces, à part quelques petits détails, on le doit à la volonté forte de l'un ou de l'autre. La solution se trouve dans le mi-chemin. Savoir céder quelque chose, faire un pas vers la volonté de l'autre. Et quand tu cèdes quelque chose, tu fais le pas vers l'autre, vous vous rencontrez dans l'amour et vous remportez la victoire. Deuxième sacrifice, ce sont les gens que vous amenez à l'assemblée. Vos collègues de service, vos amis d'enfance, vos camarades, vos membres de famille, les gens que vous rencontrez sur le chemin de la vie et avec qui vous sympathisez. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne manquent jamais dans leur poche des petites invitations, des petits tracts où on explique comment aimer Jésus et qui les distribuent pour dire « Si un jour tu as le temps, viens avec nous. Pourquoi ne viendrais-tu pas prier avec nous ?» Savez-vous, la Bible dit « Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, pas le sel de la basilique, ni la lumière de la basilique, mais le sel du monde. » Quand nous venons, nous nous équipons, nous retournons pour distribuer, afin que les autres viennent avec nous. Jésus compte sur nous pour sauver ceux qui ne sont pas ici. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux, plus nombreux que nous ne sommes. Il y a donc du boulot. C'est un sacrifice que nous devons offrir à Jésus-Christ. Troisième sacrifice, c'est la louange, le chant de louange, les paroles de description de Jésus-Christ pour dire combien il est grand. Nous avons chanté, Dieu, tu es grand, tu es grand, tu es beau, tu es puissant, tu es fort, ton sang précieux, et ainsi de suite. Quand nous décrivons tout ce qu'il est et qu'il a fait pour nous, nous le louons. C'est un sacrifice que nous devons faire. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, tu le fais, tu le fais, tu le fais. Je ne dis pas louer, Dieu veut dire écouter la louange. Non, offrir la louange, c'est différent. Pendant notre génération, il y a beaucoup de chrétiens qui apprécient la louange. Ils sont là tout calme. Non, ne dérange pas, j'écoute la louange. Oui, mais ça, tu ne l'offres pas à Dieu, tu écoutes. C'est lui qui loue, c'est celui qui chante dans le CD. Il faut que toi, tu chantes. Ah non, moi, je ne peux pas chanter. Dieu aime ta mauvaise manière de chanter. Ce qu'il veut, c'est que tu lui offres les louanges qui sortent de ton cœur. Amen. Et enfin, quatrième sacrifice, c'est le fruit de ton travail, l'argent. Dieu a volontairement fait que le travail de Dieu se fasse dans le contexte économique de la vie de tous les jours, afin que le chrétien participe à l'œuvre de Dieu avec leur argent. Lorsque les paniers passent, il y a des chrétiens qui sont tout à fait à l'aise, tout en ayant des billets de banque dans leur poche, ils se passent, et puis ils sont totalement indifférents. Ils disent oui, oui, ceux qui veulent donner, donnent. Ils pensent même que ceux qui donnent ont un esprit faible. Donc, ils sont là, bien consolés et en paix. Je comprends pourquoi ils le font. Ils le font parce qu'ils sont ignorants. Ils le font parce qu'ils ne savent pas que la Bible parle des dîmes. La Bible parle des offrandes. La Bible parle des sacrifices qu'il faut faire. La Bible parle du peuple qui construisait des temples de l'Éternel. Il ne faut pas que demain on puisse toujours faire des fromages ou des bières à vendre pour qu'on puisse enfin construire des temples. Il faut que nous participions. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Si vous voulez résoudre des problèmes financiers dans votre vie, vous devez investir de l'argent dans l'œuvre de Dieu. Le miracle financier ne vient pas de la prière, ça vient d'y donner. J'en sais quelque chose, parce que je le vis. Il m'est arrivé de ne pas prendre un salaire pendant 3 ans, parce que je voulais que l'œuvre de Dieu bénéficie de mon salaire. Et parfois les situations étaient telles que je devrais envoyer ma femme aller laver les assiettes et les WC des autres pour qu'elle gagne un peu d'argent afin que nous mangions. Parce que le mien est tenté de servir Jésus. Les sacrifices sont nécessaires. C'est pourquoi j'en parle avec liberté. Quand tu fais ça, Dieu fait des miracles. Et tu vivras et expérimenteras ce que les autres ne peuvent pas expérimenter. Il y a des choses que je n'ai pas besoin de vous partager parce que nous sommes devant Jésus et il y a des choses que lui veut faire dans nos vies. Maintenant, le miracle est disponible encore aujourd'hui, aussi longtemps que Dieu n'a pas changé. Ah, si Dieu a changé, les miracles se sont arrêtés. C'est là où j'en veux aux théologiens qui ont fait croire que les miracles se sont arrêtés au premier jour. Alors, si ça s'est arrêté au jour des évangiles, au commencement, au premier siècle, si ça s'est arrêté là-bas, alors nous sommes en face d'un problème d'assistance. De non-assistance à personne en danger. Parce que les maladies, elles, ne se sont pas arrêtées. Les conflits familiaux, eux, ne se sont pas arrêtés. Les difficultés de la vie ne se sont pas arrêtées. Israël criait à l'Éternel pour avoir le secours. Et alors, les gens de notre génération, à qui vont-ils crier? Aux politiciens? Et même aux leurs bobos? Dieu ne change pas. Ces miracles sont là. Il est disponible. Mais il faut en avoir les clés. Numéro 1, ne laisse pas le fardeau t'écraser. Donne-les à Jésus-Christ. Numéro 2, crois de tout ton cœur que tout est possible à ton Dieu et cela est vrai. Numéro 3, obéis. Obéis au quotidien. S'il y a un petit moment, un petit manque, un petit bizarrerie, arrête. C'est la raison pour laquelle nous venons. Que dit la Bible? Dans Josué chapitre 2, verset 5. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Israël savait que si vous voulez que Dieu agisse dans votre vie, tu prends un bain. Et pour nous aujourd'hui, c'est le bain du sang de Jésus. Pas seulement pour nous purifier, mais aussi nous purifions notre conscience. En arrêtant ce que nous ne devons plus faire. N'attends pas qu'on te critique pour que tu arrêtes. Laisse Dieu te sanctifier en prenant des résolutions dans sa direction. Présente-toi devant Dieu et dis-lui, il y a ceci que je ferai et que tu connais, je ne le ferai plus. Nous avons vu 4, la parole d'autorité, la prière d'autorité, donner des ordres. Ne subissez pas, réagissez par rapport à ce qui ne va pas dans la vie. Il faut que ça s'arrête. Satan, tu arrêtes. Tu es lié au nom de Jésus. Avoir l'autorité. Pas toujours, ça ne veut pas toujours dire qu'il faut parler. Il arrive des fois d'avoir une attitude d'autorité. Une attitude d'autorité. Une attitude. Cet homme qui se repose au ciel, du nom de Lester Samural, c'est un prédicateur américain qui avait vécu des miracles et des miracles. Et qu'un jour est arrivé dans un village de la Louisiane aux États-Unis pour prêcher l'évangile. Et quand il a fini de prêcher, il avait besoin d'aller dormir quelque part. Il a dit, écoutez, si parmi vous il y a quelqu'un qui a une chambre de libre, vous pouvez m'inviter, je viens de dormir chez vous, je n'ai pas pris une place à l'hôtel. Alors les gens ont ri presque tous à l'unisson. Il n'a pas compris pourquoi. Au fait, il existait dans cette petite ville, ce village, une maison hantée où personne ne pouvait vivre. Alors ils ont ri parce qu'ils ont dit, on va lui donner la maison hantée. Comme ça, on va voir comment le prêcheur va se débrouiller avec les démons là-bas. Et bien sûr, on l'a escorté à la maison bien propre apparemment, où on l'a installé, une maison à lui seul. Et il s'est établi, il s'est assis au bord du lit pour prier. Quand il a fini de prier, il s'est allongé sur le lit. Au bout de quelques temps seulement, il a vu que le lit bougeait. Le lit s'éloignait de la fenêtre. Ça bougeait sans l'aide de quelqu'un. Il a regardé, il voit vraiment que le lit bouge. Il a réfléchi, il a dit, ah, je comprends pourquoi on m'a donné cette maison. Et il a parlé au démon. Démon, tu sors! Et puis il se souvient, il dit, non, viens, reviens, remets le lit. Et puis, tu sors! Celui qui casse, c'est celui qui paye. Amen.
Amen.
Ça, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Vous savez, ne soyez pas comme un bébé que le diable écrase. Il te truffe des cauchemars et puis tu te réveilles comme un enfant battu. Oh, je n'ai même pas dormi. Et puis tu téléphones au travail. Je ne viendrai pas, ça ne va pas. Je suis mal. Si tu fais ça, tu glorifies le diable. Il va revenir le dimanche, la nuit suivante. Parce qu'il sait que la porte est ouverte. Mais s'il t'attaque, tu te réveilles, tu dis, diable, j'ai vu, c'est toi. Tu es bien au nom de Jésus-Christ et ne reviens plus jamais. Tu verras le calme venir. Pourvu que tu prépares ton cœur dans les prières. Amen. Vous savez, si Dieu vous a donné un lieu comme celui-ci, pourquoi vous en éloignez? Pourquoi? Vous savez, une assemblée, c'est une bénédiction.
Amen.